Bonjour à toutes et à tous, je suis Léa, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Un Poil du X en direct de l'agence La Grande Ourse. Aujourd'hui, nous accueillons Kyle Azan, product designer chez Aircall, qui travaille actuellement sur l'application mobile d'Aircall. Le sujet de cet épisode concerne le design d'applications mobiles, comment designer pour iOS et Android. Nous allons donc découvrir ensemble les bonnes pratiques et les méthodes pour réussir à concevoir une application mobile. Bonjour Kyle.
Bonjour tout le monde, bonjour Léa, ravi d'être là aujourd'hui pour discuter d'un sujet autour du design.
Ravi de t'avoir avec nous pour ce nouvel épisode de notre podcast et d'avoir accepté aussi de partager tes expériences. Est-ce que, avant tout, Kyle, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi c'est Kyle, donc j'ai commencé à étudier le design en 2015 et après plusieurs expériences, notamment en agence, en France et à l'étranger, c'est en juin 2021, donc il y a à peu près 2 ans et demi maintenant, que j'ai rejoint Aircall en tant que product designer. Donc Aircall, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de téléphonie cloud conçue pour les entreprises. Elle va permettre de proposer une plateforme de communication téléphonique virtuelle qui permet aux équipes de gérer les appels téléphoniques de manière centralisée. Donc comme tu le comprends, on est vraiment sur un produit purement B2B. Et côté utilisateur, on s'adresse principalement à des équipes commerciales ou des équipes support en entreprise qui sont confrontées à un grand volume, voire un très grand volume d'appels au quotidien. Donc nous, ce qu'on appelle les agents Aircall, eux, ils ont la capacité de gérer plusieurs lignes dans différents pays. Ça offre une certaine flexibilité particulièrement avantageuse pour des entreprises dotées d'équipes dispersées géographiquement. Aircall, surtout, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça permet à ses utilisateurs de se connecter, de superviser leurs appels depuis n'importe où et à n'importe quel moment, pourvu qu'ils disposent d'un accès à Internet. En outre, l'application elle offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion des appels via une liste de tâches, la to-do list, la prise de notes, l'assignation d'appels à un collègue, la possibilité de marquer un appel à des fins d'analyse, et ça avant, pendant et après un appel. Au-delà de la gestion des appels, Aircall, c'est aussi l'intégration avec plus de 100 CRM telles que des applications connues telles que Salesforce, HubSpot, Zendesk, ce qui va permettre la synchronisation directe des informations traitées au cours des appels. Moi, mon rôle, il a débuté en se concentrant vraiment sur la partie mobile, puis il s'est élargi à l'ensemble de ce qu'on appelle l'expérience agent, ce qui englobe également le produit desktop. Après, on est une petite équipe de designers côté design, on est 7 product designers. Au quotidien, moi, je collabore avec deux product managers, chacun dédié à une plateforme, une pour le mobile et une pour le desktop. Une équipe d'ingénieurs et une data analyst. Après, moi, mon travail, il se divise en deux grandes parties. La première implique la création de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles initiatives. Donc ça inclut de la phase de recherche, la phase de découverte, l'analyse de données. Après, un peu plus classique, du wireframing, de la UI, du prototypage et des tests utilisateurs. Après, évidemment, au quotidien, ce n'est pas forcément que ça. La seconde partie, elle se concentre aussi sur l'optimisation quotidienne des apps, traiter des fonctionnalités mineures, être en support pour les équipes tech, corriger des bugs UI et contribuer aussi un petit peu au design système.
Ok, super intéressant. Concernant le design d'applications mobiles, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence avec le fait de designer pour du desktop ? Qu'est-ce que ça signifie concrètement le fait de designer pour du mobile ?
Alors, designer pour du mobile, pour moi, ça implique vraiment une adaptation aux spécificités des API mobiles pour les environnements iOS et Android. Donc, ça va demander à un designer de prendre en compte tout ce qui est lié à l'espace limité à l'écran, la facilité d'utilisation avec des interactions tactiles, la gestion des différents formats d'écran, mais surtout aussi tout ce qui est lié aux contraintes de performance. Un des points après aussi qui est assez important pour moi, c'est que sur mobile, on vise à offrir une expérience qui est fluide, intuitive, mais aussi optimisée pour des utilisateurs qui sont en déplacement. En mettant un accent sur la simplicité, la navigation efficace, mais aussi la réactivité tactile.
Oui, du coup, il y a vraiment finalement cette réflexion autour de l'usage qui va être vraiment spécifique au mobile, qui amène du coup d'autres aspects, puisque l'utilisateur, notamment pour Aircall, va vraiment pouvoir être n'importe où, notamment recevoir ses appels, soit dans la voiture ou dehors. Donc ça amène d'autres aspects dans ta réflexion de la conception. Et toi, comment tu travailles, toi, au quotidien, sur une application mobile ? Est-ce que tu peux un peu peut-être nous expliquer les bases pour designer en mobile ? Est-ce que il y a des choses à savoir pour bien designer une application mobile ?
Oui, alors moi j'essaierai de te répondre du coup avec plusieurs points. Premier peut sembler un petit peu bateau, mais ça va être la compréhension du public cible. Donc Voilà, comprendre les besoins et les préférences des utilisateurs pour créer vraiment une expérience adaptée. Je pense que voilà, on parlait de notion d'utilisateur en déplacement. Voilà, savoir bien choisir les bonnes fonctionnalités à mettre en place sur une app, c'est très important pour proposer quelque chose qui est vraiment adapté aux besoins d'un utilisateur. Après, bon, un deuxième point, c'est la priorisation et l'organisation du contenu qui est, on va dire, essentiel. On le voit très souvent lorsqu'on a des produits qui sont sur desktop et qui ont des déclinaisons mobiles. Ils vont mettre d'abord en avant tout ce qui sont voilà, les fonctionnalités clés pour une accessibilité rapide et vraiment limiter le superflu. Voilà, chez AirCall, nous, voilà, comme je le disais, l'objectif primaire d'AirCall, c'est de passer des appels. Donc, voilà, quand on est sur l'application mobile, on essaie de simplifier vraiment au maximum les pages. Donc, on a une page qui, voilà, les détails d'un appel. Et voilà, les actions primaires, elles sont limitées à deux options, telles que appeler, envoyer un message. On regroupe ensuite les informations en blocs distincts, comme voilà, l'information sur l'appelant, l'appeler, l'enregistrement et l'appel et l'historique également de cet appel. Un des deuxièmes points, du coup, pour moi, qui est important pour savoir bien designer une application mobile, c'est penser accessibilité et gestes. Donc, on entend de plus en plus parler de cette notion d'accessibilité en tant que designer, mais je pense que sur mobile, c'est vraiment crucial. Donc, il faut savoir sur des éléments basiques tels que réfléchir à une bonne navigation avec des tailles de police adéquates, penser à des zones de clic qui sont assez larges et qui facilitent la navigation à une main. Mais aussi, c'est comprendre les gestes et également les gestes. Donc, quand je parle de gestes, c'est vraiment tout ce qui est swipe, le zoomer, rester appuyé, le long press. Nous, chez AirCall, on essaie d'en mettre un maximum sur les applications mobiles parce qu'on considère que c'est des actions significatives qui ont déjà été apprises par des utilisateurs sur leur propre mobile. Donc, on peut, sur cette to-do list dont je parlais juste avant, on peut avoir la liste des appels, on peut les swiper pour les archiver, faire un maintien enfoncé pour pouvoir faire une sélection multiple. Et voilà, on retrouve des codes un petit peu qu'on a sur d'autres apps. Après, je pense également à deux, trois autres points. Un des autres, du coup, c'est tout ce qui est aux notifications push. Donc, il faut vraiment s'assurer que chaque message compte en évitant de submerger les utilisateurs avec trop de notifications, justement. Il faut que la valeur des notifications doit vraiment dépasser l'interruption. Donc, au quotidien, que ça soit sur des applications essentielles, très souvent, on va dire B2C, on est submergé par des applications pour pouvoir les engager. Alors que nous, chez AirCall, justement, la plupart de nos notifications, je dirais même 90% d'entre elles, sont vraiment liés directement à l'activité de l'utilisateur, tel que je suis un agent, j'ai raté un appel, j'ai un nouveau message vocal, j'ai reçu un nouveau SMS, et du coup, sur ce côté-là, on l'informe. Les deux points ensuite qui restent, qui sont quand même assez importants, c'est savoir gérer les situations lorsqu'on rencontre une mauvaise connexion Internet. J'imagine que, toi comme moi, on a déjà rencontré des situations sur des applications, on a une mauvaise connexion subitement, et là, du coup, on est très vite agacé.
Oui.
Donc ça c'est un problème, sauf que dans le cas d'AirCall, donc on est dans du business, et imaginons je suis un agent commercial, j'essaye d'appeler un client et je rencontre un problème de connexion. Ce qui peut se passer, c'est que je vais pas entendre mon interlocuteur, lui ne va pas m'entendre et la conséquence peut être assez grave. Et du coup, le retour en arrière peut être aussi également très compliqué. Du coup, nous ce qu'on fait c'est assez basique mais on a mis en place un écran avec un visuel qui informe l'utilisateur que l'application rencontre un problème de connexion et on l'empêche de continuer, donc que ce soit même de lancer un appel. Donc ça peut être frustrant évidemment de ne pas pouvoir lancer un appel, mais on considère que c'est encore moins frustrant que de lancer un appel et se retrouver dans une situation où on ne pourra pas discuter correctement avec notre interlocuteur. Donc je pense que d'un point de vue design, c'est proposer une expérience utilisateur qui est vraiment transparente sur ce sujet-là. Et enfin, le dernier point qui est pour moi important concernant le design d'applications mobiles, c'est savoir adhérer à des standards existants. Donc, il va falloir prioriser une interface intuitive avec une navigation qui est simple. Vraiment, on doit faciliter la gestion des appels sans perdre l'utilisateur dans un environnement différent de celui de son téléphone de base. Voilà, que ce soit un agent commercial, un agent de support ou même toi comme moi, on a des habitudes quand on utilise nos téléphones.
Oui.
Quand tu veux faire un appel, je ne sais pas exactement comment tu fais, mais moi, je vais ouvrir mon répertoire, je vais chercher pour le contact, je vais l'appeler, je vais taper son numéro dans mon clavier. Il faut qu'en fait, quand j'arrive sur AirCall, je puisse retrouver cette manière de faire pour pouvoir faire ces appels. Vraiment, c'est important d'adhérer à ces standards.
Oui, il y a vraiment des habitudes finalement liées aux standards, liées à l'écosystème. Effectivement, du coup, notamment pour l'application d'AirCall, où vous avez vraiment des utilisateurs autant sur Android que sur iOS.
C'est ça.
finalement, il faut qu'il y ait cette notion de standard dans l'application. Et toi, comment tu fais justement par rapport à ça pour que l'application soit designée et fonctionne bien pour les deux systèmes d'exploitation, notamment Android et iOS ?
Ouais, bonne question. Bah, du coup, nous, que ce soit pour Android ou iOS, nous, on a vraiment établi une base commune en ce qui concerne la navigation et tout ce qui est à l'architecture de l'information.
Ok.
Ça s'applique également à la conception de nos composants qui, eux, demeurent uniformes. C'est juste lorsqu'on pense ou qu'on identifie une valeur ajoutée, on va introduire des micro-interactions spécifiques. Donc, ces nuances, elles vont permettre une meilleure compréhension de nos utilisateurs en fonction de leur système d'exploitation d'origine. C'est justement une approche qui allie cohérence et adaptation. Donc, on en parlait juste avant, cette notion de standard, et d'essayer du coup de se baser sur quelque chose que les utilisateurs connaissent déjà. Ça permet d'assurer une expérience utilisateur optimale tout en tenant compte des spécificités propres à chaque plateforme, quoi.
Ok, très clair. Donc finalement, vous avez une base quand même de composants pour les deux environnements qui est la même. Et après, vous avez des spécificités plutôt sur la partie micro-interaction. Intéressant. Et est-ce que tu aurais des bonnes pratiques peut-être à donner à nos auditeurs pour la conception d'interface utilisateur dans une application qui soit iOS ou Android ?
Bien sûr. Du coup, pour moi, il y a deux points à prendre en compte lorsqu'on souhaite... en termes de bonnes pratiques pour designer une application iOS ou Android. La première, on essaie de suivre ça au mieux chez AirCall, c'est la conception dite native et adaptative. On essaie de se conformer rigoureusement à des directives de conception spécifiques à chaque plateforme. Donc pour Apple, ça va être Human Interface Guidelines et pour Android, ça va être Material Design. Et l'objectif, on vient encore une fois sur cette notion de standard, c'est d'assurer une intégration fluide dans des écosystèmes respectifs. En UX design, on parle très souvent de charge cognitive, donc on va dire les ressources utilisées par un individu pour accomplir une tâche. Et du coup, si on adhère à ces normes, on permet à des utilisateurs de minimiser justement cette charge cognitive en interagissant avec des éléments familiers et ce qui renforce derrière la convivialité d'une application. Et du coup, pour illustrer ça, nous chez AirCall, donc comme je le disais au départ, c'est faire des appels, mais c'est aussi pouvoir envoyer des messages à nos prospects, à nos clients. Et on a retravaillé du coup, nous, il n'y a pas si longtemps que ça, ces interfaces liées au message et plus spécifiquement justement le flux pour initier une conversation avec un client. Donc côté iOS, ce qu'on a fait, c'est si je souhaite démarrer une conversation avec un client, il me suffit de cliquer sur un bouton qui est situé en haut à droite de mon écran. Alors que sur Android, on va utiliser un bouton flottant qui est situé en bas à droite. Et en faisant ça, ça nous permet de suivre des conventions établies par des applications populaires comme WhatsApp, Telegram ou tout simplement l'application Message qui est nativement intégrée dans le téléphone. Cette approche, elle est étendue à peu près aussi à des composants bien plus simples tels que les modales, les menus déroulants ou les barres de recherche. L'idée fondamentale derrière tout ça, c'est de ne pas réinventer la roue, mais de plutôt capitaliser sur le travail de recherche et d'adaptation effectué par des leaders du marché. Tels que, encore une fois, Apple, Samsung, Google. Pas parce qu'ils sont infaillibles, mais justement en reconnaissant la valeur de leur expertise et en l'appliquant de manière pertinente à notre propre conception.
Et répondre aussi à des habitudes d'usage que peuvent avoir les utilisateurs, finalement.
Exactement. Voilà, okay. C'est vraiment le point qui est vraiment primordial pour ça. C'est vraiment se baser sur quelque chose que les gens connaissent déjà et pour minimiser cette charge dont on parlait.
Ok.
Le deuxième point, pour moi, qui est assez important lorsqu'on souhaite, en termes de bonnes pratiques pour designer sur iOS et Android, et là, c'est un point qui est beaucoup moins technique et on va dire qui est beaucoup plus humain, c'est cette collaboration étroite avec des équipes tech. Pour moi, elle est vraiment cruciale et voire indispensable, car c'est eux, les développeurs dans ces environnements respectifs, qui vont avoir une connaissance approfondie de leur environnement et qui, eux, vont pouvoir nous fournir des insights sur les meilleures approches. Moi, personnellement, j'utilise un iPhone depuis plusieurs années et le fait que j'interagisse au quotidien avec des ingénieurs Android me permet de avoir leur avis sur les meilleures approches, sur les meilleurs choix à faire en concernant l'utilisation de composants ou même de micro-interactions lorsqu'on travaille. Après, du coup, ça rejoint un peu les deux autres points dont je viens de parler, c'est qu'en tant que designer, je pense qu'il faut vraiment avoir à l'esprit cette notion de coût versus valeur. Si moi, par exemple, demain, j'engage un développeur dans la création d'un composant à partir de zéro, ça peut représenter une certaine perte de temps, et qui dit perte de temps dit perte d'argent. Surtout si une solution native existe déjà, quoi. L'idée, c'est de se dire, on a un objectif précis, on souhaite répondre à un problème. On peut le faire avec un composant qui est natif. est-ce que ça marche également vraiment sur l'aspect visuel? Est-ce que ça s'intègre harmonieusement sur le plan opérationnel aussi? Alors, si ça, c'est le cas, alors pourquoi ne pas partir du coup directement sur ce composant natif? Mais voilà, après, comme je dis, il faut vraiment que ça puisse s'allier sur l'aspect identité, visuelle et opérationnelle. Voilà pour moi ce qui les deux points, on va dire, les deux meilleures pratiques pour, okay, pour penser sur ces.
Donc il y a aussi ouais, finalement cette notion de, on va dire, co-création au quotidien avec, avec ton équipe tech finalement.
Totalement.
Et peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être de manière un peu plus approfondie, toi, comment tu collabores justement avec eux, avec tes développeurs sur, sur tous ces aspects?
Oui, alors travailler avec les développeurs, comme je disais, c'est très important, donc en collaboration avec eux. Surtout lorsque je travaille sur un nouveau flux dans l'une des nombreuses parties de notre app, ce que j'essaie de faire, c'est de les solliciter vraiment au plus tôt lorsque je travaille sur, voilà, sur un flow, sur un écran. Donc ça peut représenter un certain investissement d'un point de vue au niveau du timing, sachant que moi je travaille avec l'équipe desktop, iOS et Android. Mais pour moi, ça en vaut vraiment le coup. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est organiser tout simplement une réunion qui peut durer une heure, des fois moins, des fois plus. Ça dépend de la taille du sujet à traiter. Mais en gros, ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on examine tous les parcours utilisateurs où je les encourage à partager leurs remarques. Et voilà, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient mauvaises. Hein. Un peu comme avec des testeurs. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Quoi. Après, pourquoi je fais ça? Premièrement, cette démarche vise vraiment à garantir la faisabilité et anticiper les éventuelles difficultés. Parce que même si ça fait 2 ans et demi que je suis chez AirCall, il y a certains points techniques qui peuvent subsister, qui peuvent nécessiter des éclaircissements sur leur fonctionnement ou même m'informer sur des limitations type back-end, par exemple. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir ensemble à des alternatives, chercher des solutions qui conviennent à tous. Après, évidemment, qui dit partage avec les devs, ça nécessite des fois aussi de savoir faire preuve d'insistance, mais surtout savoir bien justifier ses choix. Il faut savoir ne pas trop céder rapidement à des demandes de simplification. Mais voilà, à partir du moment où on sait justifier, selon moi, c'est pas très compliqué. Je pense que justement dans ces échanges, c'est un peu crucial de démontrer qu'on a su itérer sur plusieurs idées avant d'arriver à la solution présentée. Moi, ça m'arrive très souvent quand je fais justement ces réunions que j'ai une proposition de la part d'un développeur et cette idée, en fait, je l'ai déjà explorée et je lui démontre pourquoi en fait je l'ai pas choisie pour x ou y raison et au final après, on est tous d'accord.
Ouais, finalement, tu peux anticiper, toi, grâce à une argumentation déjà bien ciblée, bien préparée.
Totalement, et on rentre encore dans cette logique d'itération qui est pour moi vraiment primordiale, quoi. Après, toujours sur le sujet de cette collaboration avec les équipes tech, c'est, pour moi, ça s'applique vraiment à tout type de développeur qui travaille sur mobile ou un tout autre environnement. C'est s'assurer que notre proposition leur plaise et qu'ils la comprennent bien également. Ça évite qu'ils ressentent une certaine imposition de notre vision. Et on doit, en tant que designer, selon moi, être ouvert à leurs idées et nous montrer qu'on est réceptif à la collaboration. Pourquoi? Parce que c'est bien, on va dire, sur l'aspect humain de bien s'entendre avec tout le monde sur ce qu'on propose. Mais aussi, lorsqu'on va avoir un développeur qui travaille sur une solution qui est vraiment convaincu, derrière, lui aussi, il peut avoir d'autres idées sur comment encore même l'améliorer. Donc ça favorise vraiment un environnement propice à la créativité et à l'innovation. Voilà comment je collabore un peu avec les techs au quotidien.
Très clair. On va aborder un autre sujet. Là, on va plutôt s'intéresser à l'aspect du design system. On peut se demander justement quels sont les impacts que ça peut avoir du fait de travailler sur du mobile et notamment sur iOS et Android, donc sur le design system d'AirCall.
Oui, alors je vais te parler de notre design system. Bon, c'est un sujet qui est en perpétuelle évolution, mais chez AirCall, du coup, on en a un qui s'appelle Tractor, okay. qui se repose sur une fondation commune au niveau du langage, donc avec des tokens, donc tout ce qui est couleur, espace, arrondi, tout ce qui est lié à la typographie, l'iconographie, l'illustration, et ça permet vraiment de garantir une certaine cohérence entre nos produits. La différence, elle va plus venir au niveau du UI kit sur Figma. Et donc, on a des kits distincts pour les différents produits. Donc, côté desktop, donc le produit que nous, on appelle le phone, donc c'est l'application qui permet de faire des appels, qui est disponible sur Mac, Windows et Web. Et d'un autre côté, toujours sur desktop, on a le dashboard, qui lui est plutôt utilisé par des managers, des administrateurs à des fins d'analyse. Et du coup, côté UI kit, on a ensuite cette partie desktop dont je parlais, et mobile, donc avec iOS et Android. Pourquoi on a séparé ces deux kits, c'est d'une part par des considérations techniques Et ça permet une gestion plus précise des contraintes, comme par exemple les unités de mesure qui sont différentes entre le web et sur le mobile. Voilà, tout en établissant aussi derrière une source de vérité pour éviter la confusion des développeurs avec des éléments non pertinents pour certaines plateformes. Par exemple, voilà, je n'ai pas d'intérêt à livrer une liste de composants, n'importe quoi, un bouton avec un état de survol, donc l'état over à des équipes mobiles. Parce oui, que, bon, bah,
logique.
Ça ne va pas servir à grand-chose. Donc ça peut justement juste porter à confusion. Okay. Donc plutôt avoir un espace dédié juste pour eux, avec leur source de vérité, c'est plus pertinent. Après, bon, bah, ce qui concerne les composants spécifiques à AirCall, ils partagent les mêmes propriétés que ce soit pour iOS ou Android. Ce qui est intéressant à propos des propriétés des composants et qui est assez facile à gérer justement avec Figma, c'est qu'elles sont indépendantes de la plateforme, ce qui signifie qu'elles partagent les mêmes propriétés, même si elles ont une apparence différente. Si je prends un exemple encore basique comme une modale. Une modale, elle peut avoir un titre, un texte descriptif, un bloc de boutons. Et voilà, sur iOS, elle va avoir une certaine apparence, mais sur Android, elle va en avoir une autre. Mais pour autant, les propriétés restent les mêmes. Et bon, bah enfin, tout ce qui est par rapport aux composants natifs dont on a déjà pas mal parlé juste avant. Pour gérer ça sur Figma, c'est assez simple. On utilise vraiment les bibliothèques qui sont créées par iOS et Material Design. On les intègre à notre propre environnement sur Figma et après, on peut juste piocher dedans et bénéficier de toutes les variantes qui sont définies par eux directement. Et ça permet du coup d'être 100% aligné entre tech et designer sur les composants. Voilà un peu comment on approche le sujet de design system sur le mobile.
Merci, super clair. En première partie, au tout début de notre échange, tu parlais du fait que tu travaillais également sur les phases de test pour évaluer la compréhension et notamment l'usage de tes maquettes. Je pense que ça pourrait être intéressant et c'est notamment super important. Peut-être que tu peux nous expliquer comment ça se passe, toi, comment tu gères cette partie de test et d'évaluation auprès de tes utilisateurs pour qu'ils puissent en fait tester peut-être en condition avec leur téléphone. Voilà, comment ça marche et comment ça se déroule?
Oui, je suis d'accord, c'est vraiment très important cette notion de test, et d'autant plus par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant. Donc moi, dans mes expériences passées, donc, que ce soit chez AirCall ou même avant, j'ai exploré vraiment diverses approches pour tester des prototypes et évaluer leur qualité. La première qui me vient en tête, c'est la solution la plus courante et la plus facile, je dirais, c'est avec Figma. Ouais. Une fois qu'on a créé un prototype, même avec un seul écran, moi je peux utiliser l'émulateur Figma qui est disponible sur iOS ou Android. Concrètement, ça me permet juste de visualiser un écran. Je sélectionne un écran depuis mon ordinateur et ensuite il s'affiche sur le mobile. Et grâce à ça, en fait, on peut, au-delà des tests, se rendre compte de la taille du rendu, se rendre compte de la couleur, des notions d'accessibilité. Et donc ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, par rapport à tout ce qui est lié au test, nous, des fois, on fait ça en interne, c'est qu'on on met ce prototype directement sur mobile au travers de l'émulateur et on le fait tester par quelqu'un. On va dire la seule limite derrière tout ça, c'est que notre analyse va se limiter à notre prise de notes et il faudra évidemment demander aux testeurs de réfléchir à voix haute. Une deuxième solution à laquelle je pense du coup par rapport au test, c'est recourir à des solutions externes comme Maze. Du coup, Maze, nous, un produit qu'on utilise en interne, qu'on aime beaucoup. Bien que ça va nécessiter quelques ajustements d'écran si on veut tester sur mobile, les tests, eux, ils fonctionnent bien depuis un navigateur. Donc, en se basant sur un prototype qu'on a construit au préalable sur Figma, ça va nous permettre d'avoir une analyse détaillée du parcours, donc tout ce qui est analyse des zones de chaleur, les heatmaps, les informations sur les clics. Ouais. Le seul hic derrière tout ça, c'est que l'enregistrement d'écran n'est pas disponible à ce jour.
Ok, donc c'est beaucoup plus focus finalement sur de la data.
C'est ça, exactement, okay. Vraiment sur la notion de data, totalement. Enfin, la dernière solution que j'ai pu tester dans le passé et qui est pour moi la plus avancée, pas la meilleure, mais vraiment la plus avancée, c'est l'utilisation de l'outil Protopie. Donc, Protopie, bien que ça nécessite de recréer entièrement le prototype sur l'outil, ça va vraiment offrir des interactions bien plus réalistes que sur Figma qui se limitent un peu au clic. À la fin, on obtient un résultat d'un prototype vraiment haute fidélité qui s'approche beaucoup de la réalité. On va pouvoir, lorsqu'on crée ce prototype, intégrer vraiment beaucoup d'interactions comme tout ce qui est lié aux gestes, on parlait justement avant, donc les swipes, l'utilisation d'autres interactions telles que le zoom in, le zoom out, le long press, le drag and drop. Donc vraiment, c'est très chouette et ça marche vraiment très bien. On peut ensuite implémenter un clavier, je parle du vrai clavier cette fois-ci, où un utilisateur pourra taper des caractères et sans qu'on ait à recréer toutes les conditions sur Figma, par exemple. Dans le cas d'un... si on souhaite tester un formulaire avec des conditions, c'est vraiment super intéressant de passer par Protopie pour ça. Mais on peut aussi intégrer des interactions vocales, ajouter des médias tels que des vidéos ou du son. Mais vraiment, ce qui est chouette dans le cadre d'un test, c'est qu'on peut utiliser la caméra frontale d'un smartphone pour pouvoir enregistrer un utilisateur pendant le test. Et ça, c'est vraiment cool. À la fin, on obtient du coup une analyse des zones de clic. Comme on peut voir un peu sur Maze, ce qui est très utile pour évaluer la qualité du coup du test. Après, le choix de ces méthodes dépend vraiment du niveau de complexité du flux qu'on met en place et ce qu'on souhaite évaluer. Voilà pour moi ce qui est des meilleures solutions.
Ce qu'on peut retenir finalement, c'est que si on veut un prototype très avancé et notamment très proche finalement de la réalité, avec cette notion de gesture, de micro-interaction, ça serait plutôt du coup axé sur Protopie.
Ouais.
Très clair. Très bonne recommandation pour nos auditeurs. Merci Kyle. On va finir cette discussion vraiment enrichissante. Merci Kyle pour continuer un petit peu dans ce qu'on vient de se dire. Une fois que tu as testé tes maquettes, comment toi tu intègres efficacement les retours de tes utilisateurs dans le processus du coup toujours d'une conception pour une application mobile ?
Ouais, alors du coup, nous dans notre équipe, donc ça c'est vraiment en collaboration avec les product managers, on essaie d'anticiper nos projets de roadmap de 1 à 3 mois sur les équipes tech. Ça nous permet d'avoir une certaine marge de temps pour ajuster nos solutions en fonction des retours qu'on obtient lors des tests, mais également des phases de discovery. Et après, on priorise ces retours évidemment en fonction de leur impact sur le nombre d'utilisateurs, leur valeur, l'effort nécessaire pour les intégrer. Et c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire d'abord en première approche. Sur comment intégrer rapidement, au mieux, les retours des utilisateurs dans le processus de conception. Nous, on essaie de privilégier une itération rapide et on teste des nouvelles méthodes. Donc récemment, on a testé la méthode RIT sur l'initiative de notre user researcher Julie, que tu connais bien.
Oui.
Donc RIT pour Rapid Iterative Testing and Evaluation, qui vise à identifier et résoudre rapidement des problèmes d'utilisabilité en réagissant vraiment promptement en retour. Donc un exemple pour ça, imaginons que tu souhaites tester un nouveau flux sur 3 jours et avec 15 utilisateurs, tu as 5 utilisateurs le premier jour. Si à la fin de cette journée, tu obtiens, 4 ou 5 fois le même retour par rapport à quelque chose sur ton écran, sur ton interface, l'objectif derrière, c'est de, à la fin de cette première journée, apporter un changement sur ton interface, faire une modification, proposer une amélioration et voir si le second jour de test, ce problème survient de nouveau. S'il ne survient pas, alors on peut considérer que tu as un peu, entre guillemets, réglé le problème. S'il revient encore, c'est-à-dire que tu dois encore retravailler ton écran,
Ok, donc c'est finalement de la réaction rapide et de l'itération sur des retours.
C'est ça. Okay. Vraiment, ce qui est cool avec cette méthode, c'est qu'on peut, on a la possibilité d'itérer rapidement pendant cette session de test. Souvent, on peut avoir tendance à attendre d'avoir une vingtaine de retours pour pouvoir commencer à retravailler sur nos écrans, alors qu'avec cette méthode, justement, on peut faire ça assez rapidement. C'est ça qui est plutôt chouette, je trouve. Au-delà des tests, nous, on valorise également tout ce qui est feedback qui proviennent des Apple Store et des Play Store. Donc, je terminerai avec cet exemple, mais il n'y a pas si longtemps que ça, nous, chez AirCall, on recevait un très grand nombre de feedbacks négatifs, malheureusement, sur un même problème qui était donc soit sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Et des utilisateurs se plaignaient de ne pas pouvoir s'inscrire et de pouvoir d'utiliser l'application. Donc il faut le savoir, mais si demain on souhaite utiliser AirCall, il faut qu'on passe par des équipes commerciales et qu'on ait une démo qui soit organisée pour nous pour pouvoir ensuite l'utiliser. Pour autant, toi tout à l'heure, si tu souhaites aller sur l'Apple Store et télécharger l'application, c'est faisable. Donc c'est, je pense, ce qui se passait. On avait beaucoup d'utilisateurs qui se rendaient sur l'app et la télécharger, se sont passés par ces équipes. Et se retrouver un peu face à un mur puisqu'ils ne pouvaient pas continuer. Donc en gros, ce qu'on a fait, nous, on a travaillé sur une solution vraiment très rapide, mais on a retravaillé un petit peu l'écran d'inscription pour faciliter un peu le processus de demande de démo. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a juste grosso modo ajouté un lien en bas de page qui est Book a Demo, qui permet à des utilisateurs donc, de passer par les équipes commerciales et de faciliter ce processus pour accéder du coup, à une démo facilement. Grâce à ça, on s'est rendu compte que il y avait ce retour négatif qui était assez récurrent a commencé à diminuer progressivement. Mais au-delà de ça, on a même augmenté le nombre de leads. Donc, vraiment, ça, c'était plutôt intéressant. Donc pour moi, c'est un peu les trois points. Mais vraiment, le côté des stores, c'est cette expérience dont je viens de parler souligne vraiment l'omniprésence des retours utilisateurs et leur impact significatif.
Voilà. Oui, en effet, bah, c'est super malin en fait, d'avoir aussi directement aller chercher les retours et les avis sur les stores. C'est souvent riche en apprentissage, en effet. On va se quitter sur ces belles paroles. Merci Kyle d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ton retour d'expérience sur ce sujet.
Bah, merci à toi de m'avoir reçu. Merci également à la Grande Ourse. Et voilà, à très vite.
Merci de nous avoir suivis sur cet épisode du podcast Un poil du X de la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant du product design et de plein d'autres sujets sur notre site lagrandeours.design, section blog. Merci et à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du X.